Salut, c'est Lucie. Dernière émission d'information locale aujourd'hui et au sommaire, beaucoup de choses. Il y aura l'info du jour, des affrontements à Rennes en lien avec la mort du jeune Naël, un reportage signé Antoine, nouveau bénévole au campement des Gailleuls où vivent des personnes exilées. Il y aura de la musique et puis en studio, on a donc Antoine, Lucille, Anne-Pauline, Yann et puis une autre Lucie pour parler de leur année bénévole sur Canal B. On finira avec la chronique de la CIMADE et une recommandation d'expo. Ça fait beaucoup, bienvenue dans l'arène.
Maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera. Et vive la reine !
Vive la reine !
Comme chaque jour, on commence avec l'info que j'ai retenue pour vous, à savoir la colère née de la mort du jeune Naël à Nanterre, qui trouve un écho ici à Rennes. Ce jeune homme, il avait 17 ans, il a été tué par balle par un policier mardi 27 juin au moment d'un contrôle de son véhicule. Et depuis, la colère monte dans plusieurs quartiers et villes de France avec depuis trois nuits des actes de dégradation, de pillage et d'affrontement avec les forces de l'ordre. À Rennes, la nuit dernière, les patrouilles de la brigade anticriminalité ont fait face à une réponse violente d'habitants du quartier du Blône. On est au sud de Rennes. On parle de tirs de mortier, d'incendies de poubelles, de destruction de caméras de vidéosurveillance qui seraient le fait d'adolescents si on lit les lignes du Télégramme. Et des faits similaires se sont produits cette fois du côté de Saint-Jacques-de-la-Lande. Ailleurs en Bretagne, les villes de Brest, Saint-Brieuc et Lorient ont également été touchées, même plus fortement, parce que France 3 qualifie de violences urbaines des bâtiments. Certains publics ont également été dégradés. Et puis il y a aussi eu des départs de feu. Et si on cherchait à comprendre de quoi ces violences sont le signe? Une question peu posée par les médias locaux. Bon alors, on a du monde en studio ce vendredi. Je vous propose en effet une émission un peu spéciale en compagnie des bénévoles qui ont proposé des contenus tout au long de l'année dans l'arène. Lucille, bonjour.
Bonjour.
Je te vois derrière mon micro. Lucille, pour le podcast La mort, tout un art, qui est diffusé dans cette émission chaque premier vendredi du mois. Anne-Pauline et Yann, juste à côté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour la carte blanche santé mentale menée par des usagers en psychiatrie. Ça s'appelle Plus on est fou et c'est diffusé chaque deuxième lundi du mois pour faire original. Et puis juste à côté, on a Antoine Blécon, bonjour.
Bonjour.
Dont on va écouter le reportage dans quelques instants. On commence donc avec le projet Plus on est de fou, une carte blanche santé mentale menée par des usagers en psychiatrie. C'était la première année que c'était diffusé ici dans l'émission d'information locale. Yann, tu as un peu profité de ce moment pour faire un bilan de cette expérience-là qui était une première pour vous.
Tout à fait. Donc faire cette émission de radio, Plus on est de fou, fut une aventure excitante et parfois un peu stressante. Donc c'est la première fois que nous avons fait de la radio. Nous avons trouvé que ce médium est très intéressant pour développer nos convictions. Nous remercions Lucie pour son professionnalisme et pour avoir su parfois nous réassurer. Nous sommes fiers d'avoir réussi à assurer les émissions pendant toute l'année. Surtout, nous sommes ravis d'avoir pu avoir la parole en toute autonomie. Enfin, des personnes concernées par les troubles psychiques ont pu s'exprimer librement, sans le filtre des professionnels. Nous remercions Canal B et Lucie de nous avoir fait confiance et on ne peut pas avoir hésité à parler de sujets si tabous. Nous sommes convaincus que plus on parlera de troubles psychiques et de la psychiatrie, plus cela déstigmatisera les vies de millions de personnes. Si nous voulons plus de pouvoir pour les usagers, il faut commencer par conquérir notre propre expression indépendante et critique. Face à tous les fantasmes et les préjugés sur les troubles psychiques, un travail d'information, d'explication pédagogique permettra, nous en sommes convaincus, de dénoncer une certaine dérive scientiste et organiciste de la psychiatrie actuelle. Et cela permettra, nous pensons, de montrer toute l'importance du travail relationnel en psychiatrie avec les patients.
J'avais peut-être une question à vous poser en plus de cette prise de parole. Les auditeurs n'imaginent pas le travail qu'il y a eu derrière vos cartes blanches, à quelle régularité vous vous retrouviez et puis comment se construisaient ces cartes blanches. Anne-Pauline.
Effectivement, oui, ça demande du travail. Une carte blanche d'environ 20 minutes ou parfois plus.
Parfois un petit peu plus.
ça représente au moins 3 réunions de préparation. Et puis, il y a une émission dont on va écouter l'extrait tout à l'heure qui a été réalisée en écriture collective. Et là, pour le coup, ça demande aussi encore plus de travail en amont.
Sur le fait d'être devant un micro quand l'exercice n'est pas habituel, ça peut être difficile. Est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation?
Au début, comme on ne savait pas, c'était la première fois. Et on a vite compris aussi, enfin moi personnellement, qu'en fait, il fallait écrire le texte avant. Parce qu'au début, je ne savais pas comment faire. Et donc, je prenais juste des notes avec des mots-clés, des tout ça. Et j'improvisais un peu. Et en fait, du coup, on a vite compris qu'en fait, il fallait écrire le texte aussi, quoi.
Tout est écrit souvent à la radio, en tout cas pour les professionnels, aussi les bénévoles parfois qui prennent la parole. Vous avez choisi un extrait là qu'on va réécouter, extrait de l'épisode diffusé au mois de mars qui était consacré au thème des médicaments. Et vous aviez osé passer du Britney Spears sur Canal B, rappelez-vous.
Faut le faire.
Nous sommes dans l'émission L'Arène avec une carte blanche, plus on est de fou. Aujourd'hui, nous vous parlons des médicaments. Nous venons d'écouter Britney Spears, qui a parfois été internée sous contrainte car elle refusait de prendre son traitement.
Et là, moi, j'avais envie de dire un grand merci à Yann pour pas avoir imposé son veto et nous laisser profiter de Britney. Merci.
Quand même, Britney Spears sur Canal B, quand même.
C'est vrai que c'est peut-être un peu abusé, mais vous avez kiffé, on le sait.
La relation aux médicaments est complexe pour les personnes qui ont des troubles et l'acceptation d'un traitement long est parfois difficile.
Oui, c'est pour ça qu'on a envie de vous proposer un petit tour d'horizon de nos vécus autour des médocs. On n'a pas tous les quatre la même relation aux médicaments. Notre position n'est pas foncièrement anti-médoc. Pour certains d'entre nous, ils sont une précieuse béquille. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est tous questionnés sur l'intérêt des médocs, leurs effets indésirables et l'intérêt d'un traitement à vie.
Ce qui est revenu de manière récurrente lors des réunions de préparation, c'est le poids et la place que les traitements prennent dans vos vies.
Oui, c'est des rendez-vous chez le psychiatre tous les mois ou toutes les semaines. Des prises de sang, les nombreux passages à la pharmacie où il n'y a pas toujours les bons médocs.
Le poids du suivi, ça peut aller jusqu'à des visites infirmières quotidiennes, des piqûres mensuelles sous surveillance à l'hôpital ou une obligation de soins.
C'est une sacrée charge mentale. Penser tous les jours à prendre le médicament à heure fixe, parfois on doit organiser nos journées ou nos repas en fonction. Cette répétition tous les jours, ça nous rappelle aussi qu'on est malade.
Et puis accepter de prendre un traitement au long cours, c'est pas une évidence. On n'est pas toujours bien informé.
Et puis aussi, si on veut donner ses chances à un traitement, il faut souvent le suivre plusieurs mois.
Parfois, il faut même installer le traitement à l'hôpital, sous surveillance. Quand c'est la 10e molécule qu'on teste, ça peut être éreintant. Surtout si on n'a aucun bénéfice visible.
Le comble, c'est les notices. Parfois, tu prends un truc pour traiter un accès suicidaire. Et dans les effets indésirables, il y a marqué « augmentation des pensées suicidaires ».
Ouais, faut un doctorat pour comprendre les notices. On va vous en lire une et je...
Non, vas-y, Yann, s'il te plaît, arrête. Mais quand même, cher père, lire vos notices et les comprendre, c'est important.
Je me rappelle aussi de mon frère qui était contraint de rentrer à heure fixe pour prendre son médoc. Ça coupait parfois des moments spontanés dans lesquels il se sentait bien. Et effectivement, comme a dit Beryl, la quotidienneté du traitement lui rappelait sans cesse sa maladie. Et quand il partait en vacances, c'était aussi toute une organisation. Cela a un vrai impact sur la vie sociale.
Oui, et c'est pas évident de prendre ses médocs devant tout le monde.
Surtout qu'il faut slalomer entre les bobos et les babos qui te répètent sans que tu les sollicites qu'on peut se soigner avec des plantes et que les médocs c'est de la merde et qu'un petit séjour en ashram ça ferait du bien.
Et puis c'est pas comme si les thérapies alternatives, la sophrologie, la naturopathie, l'hypnose étaient accessibles. On n'a pas tous le portefeuille de Rothschild. Pour beaucoup d'entre nous, un suivi avec un psychologue est inaccessible quand la base du soin c'est la parole.
Vous parliez aussi de nombreux effets indésirables.
Oh oui, on a un petit catalogue à proposer.
Tu veux dire, en plus qu'on soit privé de pamplemousse ou de millepertuis ?
Oui, ça c'est presque anecdotique. Certains médocs peuvent provoquer des tremblements.
C'est vrai, ou de l'hypersalivation, ou de la sécheresse buccale.
Des problèmes de transit, comme la constipation.
Ou au contraire, des diarrhées.
D'autres induisent de la fatigue intense, permanente.
Ou une baisse de libido qui peut s'installer dans le temps.
Ça peut aussi être des sensations de vertige ou une sensation de vide.
Et de l'agitation, ou au contraire un ralentissement psychomoteur ou cognitif, des difficultés d'attention et de la concentration.
Et ça peut aller jusqu'à la lactation chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Et puis ça joue sur la mémoire. Moi j'ai la mémoire d'une huître et la concentration d'une moule, mais je sais pas si c'est les médocs ou moi.
Ah Véryl, t'es fraîche comme un guéridon, t'inquiète.
Le pire, c'est que pour corriger ces effets indésirables, que font les toubibs le plus souvent ?
Ils rajoutent des cachetons, ça s'appelle les correcteurs.
Et ces mêmes correcteurs ont des effets indésirables. L'ordonnance peut s'allonger à l'infini. Ma première montée maniaque, en 2012, a été accélérée par une prise antidépresseur. Des trucs qui te poussent quand tu es déjà en train de t'envoler, c'est pas recommandé. Je me suis longtemps demandé si mes troubles n'avaient pas été en partie provoqués par tous les médocs qu'on m'a fait gober. Je me le demande encore parfois.
Les médocs peuvent aussi provoquer de l'hyperphagie, avec une augmentation de l'appétit et une baisse de satiété.
Oui, de nombreux médocs favorisent la prise de poids. Quand on a en plus des troubles alimentaires à gérer ou des dérèglements hormonaux type thyroïde, ça devient l'enfer.
Je crois que pour beaucoup d'entre nous, il faut s'habituer à un corps en perpétuelle mutation. J'ai 10 tailles de fringues différentes dans mon armoire.
C'est double peine. On est stigmatisé pour nos troubles psy et pour notre corps trop gros. En 2023, il serait temps qu'on capte qu'un corps trop lourd n'est pas toujours dû à une alimentation trop riche ou à un manque d'activité physique.
Allez, mort à la grossophobie.
Ouais.
Merci Anne, Pauline et Yann et puis le reste de l'équipe pour le projet Plus on est de fous dont on vient entendre un extrait. Tous les épisodes sont à retrouver en ligne sur le site canalb.fr. Normalement, c'est bien rangé sur la page d'accueil. Un projet qu'on va sans doute retrouver à la rentrée sous une autre forme. Vous serez là au mois de septembre.
Oui, normalement.
Là.
Je me tourne vers Lucille Millard. Rebonjour.
Rebonjour.
La créatrice du podcast La Mort, tout un art, des rencontres d'une vingtaine de minutes diffusées une fois par mois dans l'émission d'information locale pour mettre en lumière ceux qui font naître du beau à partir de ce sujet de la mort. Est-ce que c'était une première expérience au micro, Lucille ?
Non, ce n'était pas la première. J'avais... déjà expérimenté les studios de Canal B avec l'Armada de production. J'étais bénévole et chroniqueuse. Là, c'était une première, par contre, dans l'exercice de l'interview.
Des interviews qui ont été réalisées au départ plutôt avec ton micro. Et puis, au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que c'était pas mal de faire ça en studio.
J'aime beaucoup les deux. J'aime autant l'ambiance du studio et aussi aller sur le terrain directement chez les gens, chez eux.
Aussi, tu as rencontré des artistes, mais aussi des professionnels de ce secteur funéraire, des mosaïstes, j'oublie sans doute d'autres professions, la coopérative funéraire de Rennes qui mène un accompagnement assez global. Est-ce que ça a été difficile de faire parler ces gens d'un sujet qui est quand même tabou à un micro, double expérience difficile ?
Eh bien finalement, pas tant que ça, parce que ce sujet de la mort, il nous concerne tous, et comme là... J'ai choisi l'angle de l'art, c'est aussi un prétexte à plus facilement parler de ce sujet tabou.
Et de ton côté, à toi, la prise de parole à un micro, est-ce que ça a été quelque chose à travailler tout au long de l'année pour gagner en aisance ou c'était facile dès le début ?
Non, je l'ai travaillé, je travaille encore. On a aussi fait des allers-retours ensemble où je te demandais des conseils pour améliorer et puis... Je demande souvent des retours aussi des auditeurs et des auditrices pour continuer et j'apprends en faisant. Donc,
Peut dire que ce podcast a quand même été un point de départ pour toi, beaucoup de rencontres qui t'ont inspiré dans même d'autres champs de ta vie. T'as vraiment fait beaucoup de rencontres ?
Complètement et j'en fais encore et c'est ce que j'adore. Si j'avais encore plus de temps, je pense que je passerais à deux par mois et il y a matière en fait à ce qu'il y ait deux interviews par mois. Mais là, bon, je reste sur un par mois.
Et ça devrait se poursuivre à la rentrée également au mois de septembre sur Canal B. Je vous ai demandé de choisir des extraits à rediffuser dans cette émission d'information locale. Tu as choisi le troisième épisode qui a été diffusé à la fin de l'année 2022. C'était une rencontre en compagnie d'un comédien. Pourquoi tu as choisi cet épisode-là ?
C'était une rencontre singulière avec Michel Givonou, qui est metteur en scène, qui a joué dans son spectacle dans le cadre du Festival Pluriel à Carrefour 18. Et En fait, moi, je l'ai contacté parce que sur le synopsis de son spectacle, c'est le voyage de mon père, mon départ. J'ai cru que c'était sur la mort de son père. Et en fait, non, il me répond quand je le contacte. Non, mon père, il est bien vivant. Par contre, c'est vrai, on parle de la mort. Et dans son spectacle, oui, il parle de la mort de sa sœur. Et aussi, il parle des funérailles, en fait, parce que ses parents n'ont pas assisté aux funérailles de sa sœur et lit le texte qu'il a lu lors des funérailles et au théâtre. C'est comme ça que ses parents ont découvert le texte.
Extrait de cet épisode qui s'intitule « L'art de transformer son deuil », diffusé dans cette émission d'information locale fin 2022 et à retrouver à la fois sur canalb.fr et sur le site lamorttoutunart.lepodcast.fr.
Donc je vous ai contacté, oui, en disant « je fais un podcast, j'interview des artistes qui traitent du sujet de la mort dans leur spectacle ». Et vous m'avez répondu « mon père est bel et bien vivant, ça ne traite pas de la mort ». Il y a quand même, dans votre réponse, un déclencheur. Est-ce que vous voulez bien en parler ?
Il y en a eu deux, j'ai envie de dire, des déclencheurs. Il y a eu d'abord mon père qui me livre une anecdote incroyable sur son déclencheur à lui. Qu'est-ce qui a fait qu'il quitte le Togo un jour et qu'il vienne essayer le rêve français ? Ça, c'était le premier. Et puis moi, mon déclencheur, ça a été la mort. C'est-à-dire que nous avons perdu... Moi, j'ai perdu une sœur. Lui, il a perdu une fille. Après 8 ans d'une danse douloureuse avec un cancer de l'utérus. Et de manière très, très claire, et peut-être très abrupte, peut-être, moi, je revois le service funéraire, quand on s'est retrouvé donc, en vase clos avec les membres de la famille proche, autour du cercueil de ma sœur. Je les revois visser délicatement le couvercle du cercueil et je me dis, donc en fait, je ne reverrai plus ma sœur. C'est terminé, ça y est. On était 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, et Nathalie et moi, on avait quelque chose de très fusionnel. Et on a encore quelque chose de très fusionnel, parce que j'estime que, non pas qu'elle existe encore, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais il m'arrive parfois de l'interroger le soir dans mon lit tout seul, de dire, écoute là, est-ce que je prends la bonne décision ou pas ? Voilà, je fais des appels comme ça à l'univers. J'en reviens à mon cercueil et j'en reviens à ces 4 types qui font leur fonction, le service funéraire, et qui vissent ce cercueil, et je vois les vis descendre tout doucement, et je me dis, donc effectivement, c'est la dernière fois que je vois ma sœur, et puis... Voilà, son visage va petit à petit s'effacer. Sa voix va s'effacer aussi. Donc la vie, il y a un commencement. Et puis un jour, ça s'arrête. Et la question qui m'est venue en sortant du service funéraire, c'est qu'est-ce qu'on met entre les deux ? Et j'ai eu la réponse avec l'anecdote de mon père, où là, je me suis dit, il faut que j'écrive une œuvre théâtrale qui traite de cette relation que j'ai avec mon papa, ou cette relation qu'on n'a pas, c'est une discussion qu'on n'a jamais eue, elle est inventée, même si elle est hautement autobiographique. Mais je me suis dit, voilà, le déclencheur pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu mets entre ta naissance, qu'est-ce que tu mets entre ta naissance et ta mort, surtout, et quel sens tu donnes à tes actions. Voilà comment sont opérées les choses, j'ai envie de dire, dans mes viscères. Parce que c'est aussi un travail psychique, mais même physiquement, on éprouve quelque chose après le décès. Alors c'est de l'ordre de la douleur, mais c'est comment est-ce que je peux le transformer. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce que je transforme le décès de ma sœur, comment est-ce que je transforme son départ définitif pour en faire quelque chose d'encore vivant.
Extrait de l'épisode 3 de La mort tout un art, diffusé fin 2022 dans cette émission d'information locale réalisée par toi, Lucille Millard, et à retrouver en ligne. C'est l'heure d'une pause musicale, une nouveauté qui a été repérée par notre programmateur Yann Barbotin. C'est le groupe This Is The Kit avec le morceau More Change. Friend, when you needed a friend. Heart hanging gold, torn again. Step ladder got down again. Light bulb life changing, found a friend. Shovel the bones away. Love, human remains remain. Realizing it, progress made. Claw sanity back again. assez beau. C'était This is the Kit avec le morceau More Change, une nouveauté musicale à retrouver sur l'album Careful of Your Keepers, un disque qui est sorti le 9 juin chez Rough Trade. This is the Kit, c'est le projet folk de Kate Stables qui est installé entre Bristol et Paris et il s'agit de son sixième disque. On poursuit l'émission d'information locale, la dernière de la saison, si vous avez raté l'info, avec le reportage d'un nouveau bénévole que vous retrouverez normalement à la rentrée, Antoine Blécon. Bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour. Antoine, parcours singulier puisque tu ne viens pas du tout du monde de la radio, c'est une reconversion récente.
Ah oui, complètement oui. Ça n'avait rien à voir ce que je faisais avant.
Quel était ton métier ?
Alors avant, j'étais métallier. La métallerie, c'est à peu près le même domaine que la menuiserie, sauf qu'au lieu de travailler du bois, on travaille du métal. Bon, on fait exactement les mêmes choses, des portes, des fenêtres, des escaliers, bref, tout ce qu'on peut faire. Et bizarrement, c'est la métallerie qui m'a amené à la radio.
Par le son, l'environnement sonore.
Exactement.
De ce travail.
Exactement. Mes premiers podcasts interrogeaient le rapport qu'on a au son dans son travail. Donc en métallerie, il y en a beaucoup. Et voilà, j'ai commencé mes premières prises de son comme ça et ça m'a plu. Donc maintenant, j'ai envie de prendre du son tout le temps.
Donc, envie de prendre du son, envie d'apprendre à prendre du son. Tu m'as contacté parce que tu avais envie de voir comment fonctionnait une radio et puis avec des questionnements sur comment on fait du reportage, de l'interview. Aujourd'hui, tu nous proposes ton premier reportage pour l'émission d'information. Tu nous emmènes au parc des Gailleuls à Rennes où vivent une soixantaine de personnes exilées. C'est malheureusement un sujet qui devient un peu un marronnier chaque été. Dans le jargon, marronnier, c'est pour parler des sujets un peu récurrents. Pour information, l'interorganisation de soutien aux personnes exilées organise un rassemblement lundi prochain. Le rendez-vous est donné sur la place de la mairie à 14h30. Objectif, interpeller la municipalité sur les conditions d'accueil dégradées dans les campements. On écoute ton reportage, Antoine. C'est parti, direction les Gailleuls.
Vous êtes en communication avec le 115 d'Ille-et-Vilaine, ligne d'urgence sociale pour personnes sans abri. Les données que vous nous transmettez seront saisies dans une application nationale, SI-SIA. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition.
Vous avez un petit garçon de 3
mois. Oui, 3 mois, bébé.
Oh là là.
Oui.
3 mois, attends.
Et la tente, bébé, la
tente. Ouais, bébé dans la tente, quoi.
Quelque part au parc des Gailleuls, début juin 2023. Un camp de fortune a été installé avec l'aide d'associations locales, de citoyens, de parents d'élèves. Il y a ici une cinquantaine de personnes. Des adultes en bonne santé, des adultes malades, des enfants, des bébés, une femme enceinte. La plupart viennent du parc Saint-Cyr, arrivé à saturation. Avant, il y avait d'autres parcs, des gymnases, des squats, et encore avant, il y avait déjà eu les Gailleuls. Hormis quelques tentes et un coin pour cuisiner, il n'y a rien. Pas d'eau, pas de douche. Pour les toilettes, il faut faire plusieurs centaines de mètres dans les bois.
Alors, je m'appelle Marion Kersi, je suis coordinatrice de l'antenne de Rennes Utopia 56. Et aujourd'hui, on a plusieurs pôles, donc on accompagne toujours les mineurs. On a également un pôle terrain, donc c'est-à-dire qu'on fait des maraudes deux fois par semaine à Rennes auprès des publics les plus précaires. On fait aussi tout ce qui est collecte de dons, collecte alimentaire, etc. Et on a le pôle famille, et donc là, on fait essentiellement de la mise à l'abri d'urgence. Donc on donne du matériel de mise à l'abri, tente, duvet, couverture, matelas, aux familles qui se retrouvent à la rue. L'été dernier, en début d'année scolaire, en septembre, il y avait deux campements à Rennes, un au parc Saint-Cyr et un au Square de la Touche. Ces deux campements, ils ont été évacués début octobre, sous ordre de la préfecture. Et il y a eu à peine la moitié des personnes qui ont été relogées suite à ces évacuations. Donc on a réinstallé le soir même des personnes en campement, mais du coup dans un autre parc, au Square des Hautes-Ormes. Et dès le soir même, il y avait une cinquantaine de personnes déjà qu'on a réinstallées en tente. Et ce campement s'est fait évacuer moins d'un mois après. Et donc là, il y a eu également aussi très peu de relogements, alors qu'il y avait des familles, des personnes en demande d'asile. Et du coup, après, suite à l'évacuation du Square des Hautes-Ormes, il y a eu un centre social, Carrefour 18, qui a été occupé pendant un week-end pour mettre les personnes qui restaient sans solution à l'abri. Ça, c'était une occupation amie en accord avec le centre social, mais qui a du coup pu durer qu'un seul week-end. Et donc le lundi suivant, il y a eu l'ouverture d'un gymnase, le gymnase de l'école de Lille, pour mettre à l'abri les familles qui restaient sans solution. Donc le gymnase, il a duré jusqu'en février. Alors il y a eu on a eu pas mal de chance à Rennes, si on peut le dire comme ça. C'est que suite à la circulaire du ministre Klein, il y a quand même beaucoup de familles qui ont été mises à l'abri pendant l'hiver. Donc c'était un gymnase où il y avait principalement des personnes célibataires sur la fin. Mais on a eu beaucoup moins de familles que les années précédentes. Ou alors elles restaient quelques jours, une semaine, où il y avait d'autres solutions annexes. Mais la plupart partaient au 115. Du coup, la circulaire Klein, c'est le ministre du Logement qui a dit que cet hiver, il n'y aurait plus aucun enfant à la rue. Et donc à Rennes, la préfecture a donné les moyens au SIAO et au 115 d'ouvrir des nouvelles places d'hébergement d'urgence. Donc c'est à peu près 400 personnes, je pense, ça représente la mise à l'abri cet hiver. Donc c'est quelque chose qui est chouette. Mais la problématique, c'est que c'est pas des places pérennes qui ont été ouvertes. C'est-à-dire que là, le 31 mars, à la fin de la trêve hivernale, on a eu très peur que toutes ces personnes-là sortent des hébergements d'urgence. Pour l'instant, ça tient encore. Mais on sait pas quand est-ce que ces familles vont sortir, peut-être cet été, et on sait qu'au bout d'un moment ces places vont fermer et que les moyens seront pas mis pour reloger ces personnes-là. Et le gymnase, il a été évacué donc en février, et là il y a tout un groupe de personnes qui s'est retrouvé sans solution encore une fois. Donc nous à Utopia, on a passé un peu le relais parce que ça avait été très éprouvant. Donc là c'est plutôt des citoyens et des étudiants qui ont pris le relais et qui ont trouvé d'autres solutions pour ces personnes-là.
Juste pour avoir une idée, il y a eu combien de personnes à peu près qui sont passées par le gymnase ?
Il y a eu entre 400 et 500 personnes à passer par le gymnase.
Ouais, c'est énorme quand même.
Oui. C'était parfois des passages rapides, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout que l'hébergement d'urgence est censé être inconditionnel et qu'on était en hiver, qu'il y avait des familles avec des nourrissons, des personnes malades principalement. Donc après, il y a eu l'évacuation du gymnase et en fait, très vite, il y a des nouvelles familles qui sont arrivées parce que les personnes continuent toujours d'arriver ici. Et donc, on a très vite réinstallé des tentes d'abord au parc Saint-Cyr. Et puis maintenant au parc des Gaillards.
Et ça c'est pour Omer, ah oui, mais ça c'est garçon et il va y avoir après pour fille.
Eh, ouais. Pour Omer c'est trop petit.
Non c'est 6 mois ça va. C'est ce qu'il met.
C'est ce qu'il met.
Oui il met plus
de. Bon Dieu, il y a si à d'art mon district après bien si le chien dans notre même monde c'est ce truc.
Eh ben on va donner ça côté là-bas.
C'est bon. Camilla.
Ça c'est pour.
Super.
Mmh. Pour 9 ans.
Ah oui.
Mmh. Ça c'est un
petit drap.
Allô.
Merci beaucoup.
Oui.
Tu veux ça?
Non.
Oui. Tac. Et ça? Claudia Clediona.
Enfin, le parc Saint-Cyr, c'est pas du tout adapté pour installer autant de tentes. Donc, il y avait déjà des conflits entre les personnes elles-mêmes parce que, déjà, vivre dans une tente, c'est pas facile. Et en plus, quand il y a trop de promiscuité avec ses voisins, ça devient encore plus compliqué. Et il y avait aussi des problèmes avec le voisinage, des personnes qui se plaignaient qu'il y ait des personnes en tente, qui ne comprenaient pas, etc. Et il y avait aussi des problématiques par rapport aux infrastructures sanitaires, les toilettes pas suffisantes, qui en plus marchaient mal, etc., etc. C'est pour ça que les personnes se sont déplacées aux Gaïeuls. Et pourquoi les Gaïeuls ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'espace, parce qu'il y a la possibilité d'avoir accès à des meilleures infrastructures sanitaires. On a pu installer des gazinières pour que les gens puissent cuisiner. Les Gaïeuls, c'est problématique dans le sens où les personnes elles sont plus isolées de toutes les associations d'aide alimentaire et de tous leurs rendez-vous administratifs. Et c'est aussi, elles sont beaucoup plus invisibilisées. Parce que c'est moins visible qu'au parc Saint-Cyr qui est en plein centre-ville, par exemple. Mais ça permet aussi que les familles elles soient toutes ensemble, qu'elles ne soient pas dispersées sur plusieurs lieux et du coup qu'ils puissent se créer de la solidarité, de l'entraide entre elles. Et ça permet aussi qu'elles soient moins visibles, par exemple, face à des attaques, à de la violence de personnes qui n'accepteraient pas qu'elles soient présentes. Par exemple, on avait installé en mars-avril On avait installé deux familles au square de la Touche, qui est un autre square plutôt dans le centre. Et il y a des personnes qui sont allées les déloger et qui leur ont dit « vous installez pas là, c'est notre parc, il y a des choses qui s'y passent, etc. » Voilà. Là, en ce moment, il y a entre 40 et 50 personnes. 47, je crois, exactement. Dont une quinzaine d'enfants avec des nourrissons. Il y a un bébé de 3 mois. Il y a une femme enceinte aussi, et pour la plupart, c'est des familles avec des personnes qui ont des grandes vulnérabilités. Donc, handicap physique ou mental, il y a même une dame qui a une leucémie, des personnes en fauteuil roulant, des personnes qui ont des maladies, etc. On a échangé avec la mairie pour expliquer la situation et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des infrastructures sanitaires qui soient mises en place. Donc, pour l'instant, on a un dialogue régulier avec la mairie, mais pour l'instant il n'y a pas d'infrastructure sanitaire spéciale pour les personnes qui ont été mises en place. Il y a des poubelles quoi, et des sacs poubelles qui ont été donnés, mais ça suffit pas. On a déposé des extincteurs aussi, mais c'est vraiment le strict minimum, c'est-à-dire que les personnes, pour aller aux toilettes par exemple, elles doivent marcher quand même plusieurs centaines de mètres, alors qu'il y a des personnes en fauteuil roulant, qu'il y a des bébés, des enfants, etc. Elles n'ont pas accès aux douches, donc il y a plein de choses comme ça qui font que c'est vraiment insuffisant. Et sur les conditions des personnes, déjà elles dorment en tente. Les tentes, quand on fait une semaine de camping, c'est imperméable, mais quand on y vit pendant plusieurs mois, c'est pas du tout imperméable. Il y a aucune intimité, les parents dorment avec les enfants, il y a une famille de maman avec 5 enfants par exemple, et ils dorment tous dans la même tente, à 6, c'est invivable. Et il n'y a pas d'espace aussi du coup, en dehors que l'espace pour dormir quoi, pour se retrouver, manger, c'est pas du tout adapté. Il y a aussi le fait que c'est en plein soleil et qu'il fait chaud en ce moment. Il y a des personnes qui sont installées sous les arbres pour éviter le soleil, mais du coup c'est dangereux par rapport aux orages qu'il y a également. Et il y a aussi toutes les problématiques du fait de vivre dans un parc quoi. Il y a les gens qui passent, il y a le personnel du parc, c'est compliqué aussi pour eux, c'est compliqué pour les familles du coup de devoir s'adapter aux règles. Il y a les bestioles, tout un tas de choses comme ça qu'on n'imagine pas. Et une des plus grosses problématiques, c'est aussi l'accès à l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau potable sur le campement. Donc les personnes, elles sont obligées de faire plusieurs centaines de mètres, encore une fois, pour aller chercher de l'eau. Et elles n'ont pas de cuve, par exemple, pour retenir l'eau. Donc il faut emmener son petit bidon d'eau, aller le remplir, faire des allers-retours. Donc encore une fois, c'est très compliqué.
Pour aller jusqu'au métro, il y a 17 minutes à pied. Il y a un peu moins pour aller au bus, mais pour aller au métro, 17 minutes.
Même ça fait quand tu peux marcher, quoi.
C'est ça, quand t'es pas toute la journée à le faire trois fois, quoi. Chercher de l'eau, aller faire plein de choses au catholique, revenir, aller au Croix-Rouge, chercher à manger, revenir. T'as pas assez, hop, tu passes au supermarché. Mais ici, on sait que ça va pas être évacué, quoi. Enfin, pas tout de suite. Effectivement, ils ont raison de demander des bidons. Il y en a eu d'apporter, mais pas un par famille, il n'y avait pas assez. 10 bidons, 110 euros. Voilà quoi. Et 10 litres, ça part super vite. Hein. Tu te laves les mains deux fois, tu fais ta vaisselle, tu mets de l'eau dans le biberon une fois, deux fois. Il fait chaud aussi, c'est que l'eau, elle la boive en fait. Donc déjà, elle est dans un bidon stagné toute la journée, c'est pas génial. Mais t'habites là, tu peux pas venir dans les packs d'eau quoi. Les 9 familles sur 10 sont pas un rond, donc ils peuvent pas acheter des packs.
Ils peuvent pas acheter d'eau. Hein.
Non. Bon, elle est potable là, mais quand elle a passé toute la journée à la chaleur, ou dans un arbre comme ça,
mobilier,
Les campements qui se créent à Rennes, c'est le résultat de la politique de non-accueil de l'État français, en fait, parce que toutes les personnes qui sont sur les campements, elles ont des droits, comme toute personne ici en France, et principalement le droit à un hébergement d'urgence. Qu'elles soient en demande d'asile, qu'elles soient déboutées, peu importe leur situation administrative, ça c'est un droit qui est inconditionnel. Elles ont aussi le droit à une alimentation saine, à l'école pour les enfants, et tout un tas d'autres droits qui sont pas respectés par l'État. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des citoyens, des associations, des collectifs qui sont obligés de se mobiliser et qui n'ont pas d'autres moyens que de mettre ces personnes en tente, parce qu'en fait, on n'a pas les pouvoirs et les moyens qu'ont l'État de créer des places dans des hébergements d'urgence, etc. Enfin, nous, par exemple, à Utopia, on dit qu'on fait de la mise à l'abri d'urgence parce qu'on considère vraiment qu'une tente, c'est pas une solution d'hébergement digne, c'est même pas une solution d'hébergement tout court. Et on est obligé de pallier au manquement de l'État parce que sinon, ces personnes, elles se retrouvent à la rue et sans rien. Sur les familles, il y a deux campements. Il y a celui des Gailleuls et celui du Parc Saint-Cyr qui représente à peu près une soixantaine de personnes, on va dire globalement. Après, à Utopia, on fait aussi des maraudes, par exemple, et on rencontre 150 à 200 personnes par semaine, sachant qu'on fait des maraudes que deux soirs par semaine et que c'est des personnes qui tournent beaucoup. Nous, globalement, on estime qu'il manque entre 300 et 400 places d'hébergement d'urgence à Rennes. Et encore, je pense que c'est une estimation qui est plutôt basse parce que, bah, en fait, on rencontre pas toutes les personnes qui sont à la rue à Rennes. Il y a des personnes qui se cachent aussi parce que c'est dangereux de vivre à la rue. Il y a des personnes qui sont en squat aussi et qui, du coup, bah, on se montre pas, qui sont dans des habitats extrêmement précaires. Et si on veut aller plus loin, il y a aussi la problématique des hébergements 115 qui sont pas du tout adaptés. Enfin, nous, on est allé visiter plusieurs hôtels où restent des familles, où les chambres sont moisies, où il n'y a pas de quoi cuisiner, où les familles, elles sont assises par chambre, parfois.
C'était un été au Gailleul. Merci aux habitants pour leur accueil, aux militants d'Utopia ou d'ailleurs. Merci à Clash D d'avoir chanté pour nous.
Timo valeş bir zin Da da dua zemra yüme Deri sadkem yeten time Da da dua zemra yüme Deri sadkem yeten time.
Merci Antoine pour ce reportage, premier reportage pour l'arène. Un premier reportage, on peut dire, pas forcément facile, que ce soit d'un point de vue émotionnel, mais aussi communicationnel.
Oui, en effet, parce que y a une grosse barrière, c'est la barrière de la langue. Et la barrière de la langue, ça isole. Moi, ça m'isolait parce que j'étais le seul à ne pas parler ou géorgien ou albanais. Et ça isole aussi ces populations, parce que c'est très compliqué de faire valoir ses droits et de se défendre quand on ne parle pas français.
Et donc, on le dit aux auditeurs, tu t'es muni de ton téléphone et d'une célèbre application pour essayer de communiquer avec les habitants de ce campement des Gailleuls, dont on reparlera sûrement sur Canal B. On va rester dans le dossier exil avec l'habituelle chronique de la CIMAD de Rennes. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Lucie, intervenante juridique au CRA, le Centre de Rétention Administrative de Rennes, pour cette association qui est la CIMAD, Association de Soutien aux Personnes Exilées. Toutes les deux semaines, on vous reçoit en studio pour que vous nous donniez à entendre ce qui se passe entre les murs de ce centre de rétention, aujourd'hui sous forme de chronique. Le Soudan est un État d'Afrique de l'Est. C'est un État qui est touché par des conflits depuis les années 2003. Tout le monde a déjà entendu parler du Darfour, une région qui se situe à l'ouest du Soudan, où les forces gouvernementales ainsi que leurs milices procèdent à ce que l'ONU a qualifié de nettoyage ethnique envers des populations non arabophones. Un mandat d'arrêt a d'ailleurs été lancé par la Cour pénale internationale contre l'ancien président du Soudan, Omar el-Béchir, qui est accusé de crimes contre l'humanité. Au début de l'année 2019, un mouvement social réclamant entre autres de meilleures conditions de vie ainsi que la démission du président est fortement réprimé. Le 11 avril 2019, Omar el-Béchir est renversé par un putsch mené conjointement par l'armée soudanaise ainsi qu'un groupe paramilitaire nommé les Forces de soutien rapide. Un gouvernement de transition est mis en place et des négociations promettant à la population la création d'un gouvernement civil sont lancées. Au fil des mois, une lutte de pouvoir s'installe entre le dirigeant de l'armée et celui du groupe paramilitaire. Alors alliés lors du putsch, ils deviennent aujourd'hui adversaires. Les tensions entre ces deux hommes se sont exacerbées jusqu'au déclenchement le 15 avril dernier de violents combats qui n'ont pas cessé depuis. Ces affrontements ont fait rage dans d'importantes villes du Soudan et notamment à Khartoum, la capitale. Ces combats ont des conséquences désastreuses sur les populations civiles qui se retrouvent lourdement touchées. L'aide humanitaire ne parvient pas à être acheminée du fait du non-respect des cessez-le-feu. Les hôpitaux ne fonctionnent plus ou seulement partiellement. Et des quartiers entiers sont privés d'eau potable ainsi que d'électricité. Selon un article du Monde, en date du 17 juin 2023, plus de 2000 morts sont déjà recensés et plus de 2 millions de personnes ont déjà fui le pays en trouvant refuge principalement dans les États frontaliers et notamment le Tchad. Après avoir dépeint ce tableau qui est violent et insupportable, on pourrait logiquement penser que l'État français prenne acte de la situation actuelle au Soudan. Malheureusement, il semblerait que le gouvernement et les préfets français n'aient pas accès aux mêmes sources d'informations que le commun des mortels. Alors que la guerre fait rage, des personnes de nationalité soudanaise continuent d'être enfermées en centre de rétention administrative afin d'être expulsées. Encore récemment, un homme soudanais a été enfermé au CRA de Rennes. Ni le juge des libertés de la détention, ni le juge administratif, ni l'OFPRA n'ont souhaité protéger cet homme d'une possible expulsion vers le Soudan. Il a fallu attendre 32 jours avant qu'un juge daigne le libérer. Au-delà d'être matériellement impossible, l'aéroport de Khartoum étant à l'arrêt, les expulsions des ressortissants soudanais vers leur pays d'origine sont tout simplement illégales au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Au même titre que les personnes afghanes, iraniennes ou encore irakiennes menacées d'expulsion et enfermées en centre de rétention administrative, les ressortissants soudanais sont victimes de l'acharnement de l'État français, qui enferme et expulse vers des pays où ils risquent la mort au mépris de leurs droits les plus fondamentaux. On vient d'entendre la chronique de la CIMAD de Rennes et on avoue aux auditeurs, Lucie, que cette chronique a été enregistrée puisque tu es en ce moment au boulot au centre de rétention administrative. Bonjour Lucie.
Bonjour. Alors en fait là actuellement je suis dans le bureau de la CIMAD dans le centre de rétention administrative. Donc nous on est une équipe de 3 à intervenir à Rennes et notre mission principale c'est de faire de l'accès au droit, donc de recevoir les personnes qui sont enfermées ici, de faire des recours contre leurs mesures d'éloignement et d'expulsion.
Et alors là, tu es dans le bureau, autour de toi, la déco, tu nous la décrirais comment ?
Là, de ma fenêtre, je vois des barbelés partout. Il y a la police aussi qui est hyper présente parce que c'est eux qui gèrent ce lieu. Donc c'est assez austère et pour les personnes qui sont enfermées, c'est un lieu très angoissant.
C'était une première expérience au micro pour toi. Là, c'est chronique enregistrée en studio ici à Canal B. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette expérience en toute honnêteté ? C'est forcément un exercice qui n'est pas facile au début.
Oui, effectivement. Et j'avoue que ce n'est pas facile de se prêter à l'exercice. Par contre, j'ai trouvé que ça avait énormément d'effets positifs sur moi, personnellement. Notre mission principale, c'est de faire de l'accès aux droits. Et en fait, aujourd'hui, le droit des étrangers est quand même très malmené, que ce soit par l'administration, les préfectures ou même les juridictions. Et donc, on perd pas mal de sens dans notre travail. Et là, le fait de devoir travailler sur des chroniques, de les rédiger, ça nous fait prendre de la hauteur. Et je trouve que l'exercice d'expliquer, de vulgariser ce qui se passe au centre de rétention, ça repose beaucoup de choses. Et ça, moi, personnellement, ça me redonne beaucoup d'énergie.
Est-ce que c'est aussi l'occasion de sortir du centre de rétention administrative ? C'était peut-être pas facile de trouver le temps pour venir en studio dans le centre-ville de Rennes, mais c'était peut-être un moment particulier aussi pour vos équipes ?
Ouais, c'est un moment particulier. Et c'est une des missions de la CIMAD aussi, c'est de pas uniquement rester dans le centre de rétention administrative, mais de porter ce qui s'y passe à l'extérieur. Et donc du coup c'est un temps qu'on est hyper contente de prendre et c'est un espace super qu'on a dans l'émission La Reine. Et un des éléments qui est hyper important aussi, et c'est pour ça que ça reste fondamental dans cet exercice-là, c'est de faire porter en fait la parole des personnes qui sont enfermées. C'est des personnes qui sont complètement invisibilisées, on sait très peu ce qui se passe dans les centres de rétention et comment elles sont traitées. Et c'est vrai que le faire par le biais de chroniques ou même de témoignages, c'est super important parce que c'est ces personnes-là qui sont les plus légitimes et les mieux placées pour parler de ce qui s'y passe.
Et comme la CIMAD est depuis un petit moment maintenant dans les émissions de Canal B, on espère bien vous retrouver à la rentrée au mois de septembre. Merci beaucoup Lucie pour ce petit passage dans l'émission.
À bientôt.
Alors, on approche de la fin de l'émission d'information locale. Une courte recommandation. Alors, parfois, je vous donne des conseils de choses à écouter, à lire, souvent des événements à vivre et pour lesquels, je vais être honnête, je n'ai pas toujours le temps d'y consacrer des sujets longs. Aujourd'hui, un conseil d'exposition à voir, une exposition gratuite. C'est pour ça que je vous en parle et elle vaut toujours le coup. Il s'agit de l'exposition photo de la Gacilly. On est à une heure de Rennes en direction de Vannes et c'est déjà la 20e édition de cet événement qui habille les murs de la ville. Ça se passe vraiment en plein air. Depuis le 1er juin et jusqu'au 1er octobre, vous y découvrirez les regards de photographes du monde entier, des grands maîtres de la photo, mais aussi des artistes émergents sur ce thème de la nature en héritage. Et puis, tant pis pour le partenaire principal de cet événement qui n'est pas très clean, je le cite, hein, c'est le groupe Yves Rocher. Mais pour plus d'informations sur cette expo qui est toujours super, il y a le site internet festivalphoto-lagacilly.com. Anne-Pauline, Yann, Lucille, Antoine, c'est le moment où je vais vous dire merci. Et ce qui est chouette, c'est que je le dis hors antenne, il y a des discussions qui sont nées, ça a beaucoup parlé pendant l'émission. La Reine s'est donc terminée, une émission d'info locale qui prend des vacances. Dès lundi à 17h, c'est l'émission estivale de Boulevani qui va prendre mon créneau, des cartes blanches qui sont animées par les salariés de la radio. Et puis nous, on se retrouve début septembre pour une émission d'information locale qui essaye d'être à la fois réflexive mais toujours combative. Je vous souhaite un bel été et puis quoi de mieux que de terminer avec Kate Bush et son morceau Running Up That Hill. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Lucie.